Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La dessinatrice de presse Coco est dans l'actualité culturelle. Elle a publié le 11 mars aux éditions des Arènes « Dessiner encore », un album dans lequel elle raconte comment elle a survécu à l'attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo et comment, depuis, elle s'est reconstruite. Chez Code Source, nous avons eu envie d'en savoir plus sur elle et de l'écouter nous raconter son parcours. Coco a accepté de recevoir Claudia Prolongeau.
La première chose que je demande à Coco, c'est si la promotion de son livre se passe bien. Elle me répond qu'elle trouve ce mot tellement étrange, pour une BD qui raconte son traumatisme après l'attentat qui a fait 12 morts, dont 11 au siège du journal satirique. Coco a 38 ans, des cheveux noirs, de grands yeux verts très bien maquillés et des tatouages sur les avant-bras.
Je travaille dans un bureau qui est le mien. Il n'y a rien d'autre que mes affaires dedans, mes livres, deux bibliothèques, un ordi, une table et puis une fenêtre.
Coco a grandi à Annemasse, à côté de la frontière suisse et de Genève. Dès toute petite, elle dessine.
J'ai un souvenir assez précis de quand on est petit, qu'on est en CP, que la maîtresse vous demande « qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Moi, j'avais répondu « dessinatrice ». Quand j'étais petite, je dessinais beaucoup d'animaux. Des chiens, des chats, tortues, rats, souris, lapins. On avait plein d'animaux autour de nous, donc j'aimais bien.
Logiquement, Coco s'oriente vers une école de beaux-arts à Lyon. Mais ça ne lui plaît pas. Elle s'ennuie même beaucoup. Les cours sont trop conceptuels et elle est virée avant la fin de l'année, sans vraiment savoir quoi faire d'autre.
Je suis restée un an à me gratter la tête et puis j'ai tenté ce concours à l'École européenne supérieure de l'image de Poitiers. Et j'ai été prise et j'ai passé 5 années géniales là-bas à faire de la gravure, de la peinture, du dessin, de la photo, explorer tout plein de trucs et puis en gardant le dessin en support principal de tout. Et puis, voyant un peu la tournure que prenaient mes dessins, humour, un peu trash, un peu regard porté sur la société, un prof m'avait dit « bah tiens, tu devrais aller faire ton stage de fin d'études à Charlie ».
C'est comme ça qu'en novembre 2007, Coco met pour la première fois les pieds à Charlie Hebdo, qui accepte de la prendre en stage. Le journal satirique, alors dirigé par Philippe Val, le sera 2 ans plus tard par Rhys Echarbe.
Quand on est en année étudiante, on travaille seul sur un diplôme, on a le nez dans les bouquins. Et là, en fait, quand je suis arrivée dans cette rédaction, je me suis confrontée à plein de gens, plein de personnalités, une espèce d'émulation géniale. Et puis le fait aussi que les dessins avaient une portée tout autre. Ils étaient publiés, il y avait un lectorat derrière, là où moi je dessinais toute seule dans mon coin, en fait. Et ça a été vraiment une révélation pour moi de voir ça.
Coco passe 4 semaines formidables. Elle apprend, comprend, découvre. Elle dort chez un copain des Beaux-Arts, déjà installé dans la capitale, et devenu son mari et le père de sa fille depuis. À la fin de son stage, Coco rentre à Poitiers pour finir ses études, avec la ferme intention de revenir. En août 2008, son diplôme en poche, elle s'installe donc à Paris.
Il fallait que je me trouve un petit boulot. J'ai été surveillante dans une école, qui était un peu mon petit gagne-pain, puis à côté, je pouvais dessiner. J'ai fait un blog pour pouvoir m'exercer et à côté, je dessinais à Charlie et mon premier dessin a été publié en novembre 2008. Ça a été long au départ, c'était pas des publications régulières parce que c'était nouveau pour moi le dessin de presse. Donc j'ai bien mis à peu près 3 ans à comprendre et à me faire un style de dessin de presse.
Au 44 rue de Turbigot, où Charlie Hebdo est installé à l'époque, Coco se donne du mal. Impressionnée par tous ces grands caricaturistes qui l'entourent, elle s'acharne pendant des heures pour sortir un dessin de qualité. Un jour de 2010 ou 2011, elle se lance dans une caricature de Christine Lagarde.
Je dessine comme ça, avec Le Parisien, un peu à la méthode Cabu. Il prend le Parisien parce que c'est la presse généraliste et puis il y a pas mal de gueules, quoi. À cette époque-là, je faisais exactement comme eux. Je découpais des petits visages sur les journaux plutôt que d'aller sur Google Actu. Et puis, je me faisais une petite banque d'images comme ça. J'avais tapissé tout un mur chez moi comme ça de gueules de politique pour m'exercer. Et là, autour de la table, je suis en train de dessiner Christine Lagarde. Et puis, comme je suis avec Cabu et que Cabu, il refuse jamais un conseil, j'ose aller le voir avec mon petit dessin sous le bras. Il dit que le regard, c'est le plus important et que c'est par ça qu'il faut commencer. C'est un peu presque le point de départ. Et moi, j'ai gardé ce conseil-là. Je commence par les yeux, le regard, sourcil, œil. J'essaye de saisir ça. Puis ensuite, ça, c'est comme si le reste suivait.
Mais la consécration vient plus tard. Le jour où Coco se dit pour de bon qu'elle aussi, elle fait partie de l'équipe Charlie.
J'ai senti que je faisais plus partie de l'équipe quand en 2012, Charb est venu me voir pour me dire « Bah tiens, à l'Humanité, ils cherchent des pigistes pour une rubrique qui s'appelle Cactus, ça te dit de postuler ?» Et à partir de ce moment-là, j'ai pu piger à l'Humanité. Puis quand 28 minutes s'est monté en 2012, c'est lui qui m'a dit « Bah tiens, je suis allée dans cette émission, tiens, tu devrais y aller. » Et en fait, il me mettait le pied à l'étrier, quoi. Il m'a donné la possibilité de m'améliorer, de m'exercer, puis de travailler davantage. Il croyait en moi, quoi, tout simplement.
De la même manière, quand Luz, un autre dessinateur du journal, arrête de collaborer avec le magazine Les Inrocks, il dit à Coco d'aller y postuler. Et elle se retrouve à travailler aussi pour eux, pendant 6 ans, sans lâcher évidemment Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, Coco est donc parfaitement à sa place, quand elle se rend, comme d'habitude, à la conférence de rédaction hebdomadaire du journal. Pour elle, c'est une année qui commence bien.
Depuis août 2014, Riyad Satou fait partie du journal et Charberis sont venus me voir pour me proposer de faire une petite colonne de reportage. Alors ça va du conseil municipal des Balkany aux jouets de Noël, à l'allocution de François Hollande pour les vœux de nouvelle année. C'était d'ailleurs la colonne qui est parue le 7 janvier. Bref, des mini-reportages comme ça que je fais depuis quelques semaines. Je suis très contente de cette progression dans le journal, je me sens bien. Alors le journal a quelques difficultés, mais sort le nez des dettes. On vient de déménager rue Nicolas Appert, c'est plus petit, mais il y a une espèce d'ambiance depuis quelques semaines soudée, quoi, de l'équipe qui est bien.
La conférence de rédaction se passe exactement comme prévu. On rigole, on s'engueule, on est content de se retrouver. Vers 11h30, Coco, qui doit aller chercher sa fille à la halte garderie, décide de partir, sans vraiment dire au revoir, pour ne pas déranger. Elle descend fumer une cigarette avec Angélique Lecor, qui est responsable du service abonnement. Et quand elles arrivent en bas, elles tombent sur les terroristes qui reconnaissent Coco et l'interpellent. Dans sa BD, elle se dessine alors toute petite, bleue, et avec d'immenses yeux écarquillés.
Moi, je voulais donner à voir dans quel état j'étais immédiatement, c'est-à-dire face à deux masses de morts noires, anonymes, en cagoule, surarmées, et je reconnais immédiatement leurs armes, parce que Charb dessinait terriblement bien les kalachnikovs. Rapidement, il me presse, il me pousse, et je suis dans ce qu'on appelle la sidération, quoi. L'effroi est tel qu'il vous paralyse complètement.
Les terroristes prennent Coco en otage et lui ordonnent de les amener jusqu'à Charlie Hebdo. Ils lui font taper le code d'entrée qui permet de pénétrer dans les locaux de la rédaction. Entré dans la salle principale, il tue 11 personnes, parmi lesquelles Cabu, Charb, Tignos, Honoré. En prenant la fuite dans la rue, ils assassinent également un policier, Ahmed Merabé, portant le nombre total de morts à 12. Dans sa BD dessinée encore, Coco revient sur les origines de cette haine revendiquée contre Charlie Hebdo et que la plupart d'entre nous a probablement oubliée.
L'affaire de cette caricature qui enflamme le monde musulman.
Tout est parti de l'affaire dite des caricatures danoises, publiée par le journal Jyllandsposten et qui représente Mahomet. En 2006, Charlie Hebdo les reprend, en soutien au journal qui subit des menaces. Et ils y ajoutent la célèbre une de Cabu où Mahomet se lamente, c'est dur d'être aimé par des cons. Charlie Hebdo est alors poursuivi par l'Union des organisations islamiques de France et la Grande Mosquée de Paris pour injure publique à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur religion. Le 22 mars 2007, le tribunal de Paris relaxe Charlie Hebdo, mais la guerre idéologique contre le journal satirique est lancée. Il est désormais la cible de menaces et d'attaques.
En France, un cocktail Molotov a mis le feu au locaux de Charlie Hebdo. L'hebdomadaire avait déjà reçu des menaces de mort.
Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2011, le siège du journal est incendié par des cocktails Molotov après la publication d'une autre une mettant en scène Mahomet. Depuis ce jour-là, les locaux sont sous surveillance de la police en permanence et Sharp vit sous protection policière. Mais ça n'empêche malheureusement pas l'attentat du 7 janvier.
Je crois, en parlant autour de moi, que les gens avaient plus ça en tête. Nous, on a le nez dedans parce que c'est l'histoire du journal. Mais ça me semblait important de le rappeler pour recontextualiser et puis pour montrer dans la suite l'attentat. Ça fait un espèce d'effet vertigineux quand on y pense. Ce journal n'a jamais fait que son boulot de journal satirique. Moi, je veux aujourd'hui défendre ça encore, quoi.
Dans sa bande dessinée, à chaque fois que Coco en arrive à ce jour, qu'elle appelle le 7, une immense vague bleue déferle sur elle et l'emporte, un peu comme cette célèbre estampe du peintre japonais Okuzai.
Je me suis mise devant une feuille blanche et j'ai pensé à la vague d'Okuzai parce que ça me parlait. Ça me semblait traduire quelque chose qui, chez moi, était littéralement un état. La vague d'Okuzai, c'est quelque chose d'une grande puissance, comme une griffe qui va s'abattre sur un petit bateau. On ne sait pas si le bateau s'en sortira. Je me sentais un peu dans le bateau à ce moment-là, dans la houle, dans des tas de nuances comme ça. Donc j'ai commencé à dessiner cette vague et à développer la séquence introductive du livre avec cette lutte, quoi. Une lutte intérieure d'une grande violence. Parfois je rends des coups, parfois j'en prends, parfois je me noie. C'était ça, c'était des tumultes. C'était ça que je voulais traduire et ça me semblait pouvoir toucher le lecteur. Même si il y a des choses que je ne peux pas partager, je sentais que ça faisait un pont entre le lecteur et moi.
Mais le livre de Coco n'est pas seulement tragique. Il est même parfois assez drôle.
Ce qui est plus tragicomique, on va dire, c'est quand les Kouachi me disent « On est Al-Qaïda Yémen » et j'entends « On est Al-Qaïda Rennes ». Et ça, c'est vrai que à ce moment, j'ai eu un peu honte de le dire au début, mais dans leur cagoule à marmonner, puis j'étais dans une telle sidération. C'est pour ça que j'ai eu un peu honte de dire ce moment, parce que je me suis dit « On va penser que je suis complètement con, c'est pas possible ».
Contrairement à d'autres rescapés de cet attentat, Coco n'a pas éprouvé le besoin de raconter ce qui s'était passé. Pas tout de suite, du moins. C'est quand le moment du procès, qui a eu lieu fin 2020, s'est rapproché, qu'elle a souhaité le faire. Et quand elle a vu qu'autour d'elle, on commençait déjà à oublier.
Je me suis rendu compte à un Noël, en parlant, qu'il y a eu un « c'est quoi le 7 janvier ?» Ouais. Parce que c'est pas revenu immédiatement en tête ou parfois je me suis rendu compte aussi en discutant qu'il y avait une mémoire un peu imprécise, quoi, que ça devenait un peu plus partiel et voir que les gens oubliaient, ça m'a fait de la peine.
Les semaines, les mois, puis les années qui ont suivi l'attentat, Coco a continué à dessiner. Non seulement pour faire survivre Charlie Hebdo, mais également pour survivre elle-même.
C'est ça aussi la réalité du traumatisme, c'est qu'il vous emporte bien au-delà de l'attentat lui-même. Il dure après et il dure longtemps. C'est vraiment une bataille pour essayer de lever la tête. Heureusement, j'ai vu le psy. Heureusement, j'ai continué le journal. Et heureusement, j'ai le dessin. Et c'était ça aussi la passion du truc. Du dessin, ça a été le truc qui m'a beaucoup aidé, oui.
Fin 2015, quand des terroristes ont encore tué, cette fois-ci au Bataclan et sur des terrasses de bars parisiens, Coco a trouvé la force de faire une pour Charlie qui reste particulière dans son esprit. On y voit un homme danser, bouteille de champagne dans une main, coupe pleine portée à la bouche dans l'autre. Le liquide jaune pâle ressort aussitôt avalé par des trous dans son buste. On peut lire « Ils ont les armes, on les emmerde, on a le champagne ».
J'ai fait ce bonhomme troué en pensant que ça pourrait être moi, c'était eux, ça pourrait être moi. J'y ai trouvé un écho, quoi, Voilà, là encore, ils avaient attaqué des libertés de boire, de rire, de s'amuser, d'écouter de la musique. Donc j'ai fait ce bonhomme qui boit du champagne et le champagne sort par les trous parce qu'il est criblé de balles. Mais il vit quand même, quoi. Il fait la fête. Il y avait un appel de résistance, quoi.
Depuis le 1er avril, Coco, qui n'a pas arrêté et n'arrêtera pas de travailler à Charlie Hebdo, a remplacé Willem, le célèbre caricaturiste de Libération, parti à la retraite.
Je suis contente que Libé n'arrête pas le dessin de presse après Willem, c'est quelque chose qu'ils auraient pu dire, et ils ne l'ont pas fait. Ils ont assumé un choix, et ça je suis contente. J'aurais été dingue de pas dire oui. Donc après Willem, évidemment, c'est une grosse pression. On m'a dit, tu vas remplacer Dieu si vous avez lu Télérama. En plus, il est sympa, Willem. Il m'a envoyé un message là-bas. Je vais vous le lire parce que ça, je viens de le recevoir. Willem, il m'a envoyé. Félicitations, Coco. Bon, merci pour ton portrait. Libé sera donc à toi pour les 40 prochaines années. Signé Willem.
Bon, ça serait pas mal.
Ouais.
Claudia, tu l'as redit hein, dans le sujet, les terroristes l'ont forcé à faire le code pour entrer dans la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Est-ce qu'elle se sent encore coupable de ça aujourd'hui ?
Alors, elle dit qu'il lui a fallu beaucoup de temps, beaucoup de séances de psychothérapie et le soutien de ses proches pour s'en dégager. Dans le livre, il y a toute une séquence où elle égrène les « et si j'avais fait autrement, et si j'avais refusé, et si j'avais essayé de les frapper, et si, etc. » Elle a évidemment pas la réponse, mais ce que dit Coco, c'est qu'elle sait aujourd'hui que ce n'est pas elle qui a tiré sur l'équipe. C'est pas elle qui tenait les armes, et même si sur le moment, elle était incapable de l'entendre, elle sait que ce n'est pas sa faute. Il n'y a évidemment jamais eu de choix, son corps était complètement paralysé, elle ne comprenait absolument pas ce qui se passait, elle dit même qu'elle ne bougeait plus, et ça, elle a compris aujourd'hui que ça aurait pu arriver à n'importe qui, et que ce jour-là, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle dit « je ne vais pas vous dire que je m'en voudrais toujours, mais c'est là, c'est en moi, et donc je dois vivre avec ».
Plus de 6 ans après, aujourd'hui, elle vit encore sous protection policière ?
Oui, elle vit encore sous protection policière. Elle ne dit pas où elle vit exactement. Ça a donc évidemment changé tous ses comportements en société, tout son quotidien. Elle dit qu'on ne s'habitue pas à cette situation, mais qu'on s'adapte et donc elle s'est adaptée.
Merci Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Raphaël Thomas. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, codesource@leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.